Bonjour Jean-Marie Delarue.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes conseiller d'État, vous avez été contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2008 à 2014 et depuis quelques jours, vous êtes donc le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous avez pris vos fonctions le 10 avril dernier de cette autorité qui est chargée de surveiller le Parlement et le gouvernement en matière de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vous avez pris vos fonctions en lieu et place de Christine Lazerge, mais déjà de Jean-Marie Delarue, beaucoup de pain sur la planche. Un rapport que vous rendez, enfin que la Commission rend de façon annuelle sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme d'un côté. Une loi anti-casseurs qui est entrée en vigueur le lendemain de la prise de vos fonctions. Une condamnation pour sa gestion dans les manifestations pour le maintien de l'ordre et la gestion de la violence par les policiers. Une condamnation de l'ONU de la France. Et puis tout récemment, une polémique, puisqu'on va appeler ça comme ça, qui occupe encore trois jours après la une de tous les journaux, après ce qui s'est passé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Christophe Castaner, pour ne pas le nommer, est au centre de cette polémique. Le ministre de l'Intérieur est revenu sur ses propos hier. Il a parlé d'attaque, il aurait mieux fait parler d'intrusion violente, etc. Toutes les réactions de gauche et de droite se sont exprimées. On pourrait en citer une seule, c'est celle de Valérie Pécresse qui a réagi à la polémique hier. Elle était la présidente de la région Île-de-France, l'invitée d'un journal sur France Info. Et elle a dit, finalement, peu importe le motif de l'intrusion, je suis le parti de l'ordre et dans le parti de l'ordre, de toute façon, peu importe l'intention, qu'est-ce qu'on en sait, qu'est-ce qu'on sait des dégradations, c'est certainement pas le fait d'avoir attaqué ou le fait d'être entré ou d'avoir voulu entrer qui pose problème, c'est le fait qu'un hôpital c'est un sanctuaire et qu'il doit être respecté par les manifestants. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe en ce moment, Jean-Marie Delarue?
Alors moi, je suis mal à l'aise pour me prononcer sur les événements de la dernière manifestation du 1er mai. Il y a d'autres choses dans cette manifestation qui me paraissent également préoccupantes. Le fait que les revendications syndicales se passent complètement à l'arrière-plan, par exemple, moi, ça me préoccupe parce que c'est un élément essentiel de notre démocratie qui s'efface en quelque sorte, parce que d'autres éléments qui apparaîtront secondaires avec le temps, je pense, prennent le dessus. Donc moi, j'ai du mal à m'aventurer sur ce sujet-là. En revanche, c'est vrai que il faut s'interroger sur les conditions, par exemple, dans lesquelles aujourd'hui le droit à manifestation s'exerce. Vous avez rappelé l'existence de la loi du 10 avril dernier, dite anti-casseurs, qui est une loi qui limite, qu'on le veuille ou non, le droit de manifester. Et dans tes termes, c'est ce que le procès que je fais souvent à ces lois récentes, dans des termes qui sont flous, qui sont vagues et qui laissent à l'autorité de police une marge d'appréciation considérable. Je vous donne un seul exemple. On dit on va pouvoir fouiller, ça a été admis par le Conseil constitutionnel, dans les abords immédiats d'une manifestation. Qu'est-ce que c'est qu'un abord immédiat? C'est la police qui va vous le dire. Et mercredi dernier, si j'ai bien compris, les abords immédiats, c'était les entrées de Paris pour fouiller les véhicules. Mais le cortège, il devait aller de Montparnasse à la place d'Italie. Est-ce que le périphérique du côté de la porte de la chapelle, c'est les abords immédiats? La police en a décidé ainsi. Donc, voilà un exemple par lequel, au fond, dans notre société, le pouvoir de police grignote assez régulièrement des pouvoirs qui étaient jusqu'alors dévolus au procureur de la République, au parquet, à l'autorité judiciaire. Voilà pourquoi, moi, je suis inquiet sur ces manifestations récentes. C'est l'orientation qu'elles permettent au pouvoir public de prendre.
En même temps, les contrôles, puisque vous les évoquez, Jean-Marie Delarue, 17 000 à peu près dans la capitale, quelques 330 interpellations préventives avant les manifestations, ont sans doute permis, c'est en tout cas ce que dit la police et ce que dit le gouvernement aujourd'hui, d'empêcher des débordements encore plus violents.
En toute logique, on ne le sait pas. On ne saura jamais ce qui s'est arrivé
compte tenu de l'ambiance précaution sociale du moment ou du climat social du moment, on peut l'imaginer, non?
Oui. Je n'en sais rien. Je rappelle souvent que les violences, si condamnables soient-elles, et elles ont coûté cher à un nombre de commerçants en particulier, et puis de personnes aussi, ces violences ne sont pas nouvelles. Il y a eu de tout temps des manifestations extrêmement violentes, On pense à la marche des mineurs de Lorraine en 1983, d'autres manifestations de ce genre. Non, ce qui est nouveau, c'est que ça dure toutes les semaines depuis un certain nombre de mois.
C'est la régularité et la récurrence.
Voilà. Je crois que ça, c'est ce qui épuise les policiers. Etc. Alors que derrière, on invente de nouvelles tactiques policières pour prévenir un certain nombre de violences, ça ne me gêne pas. Au contraire, c'est le devoir du gouvernement. Mais il ne faut pas que ces tactiques, ces renforts, gênent l'exercice de nos libertés démocratiques. Il faut que chacun ait le droit de manifester. Et donc, je suis un peu inquiet d'un certain nombre de mesures qui sont prises, mais ça concerne aussi d'autres libertés, naturellement.
On va y venir, bien sûr, mais Jean-Marie Delarue, quand vous dites chacun a le droit de manifester, n'est-ce pas le cas aujourd'hui? La loi anti-casseurs, entrée en vigueur le 11 avril, a été délestée de cet article qui donnait aux autorités administratives le droit de refuser l'autorisation de manifester après l'avis du Conseil constitutionnel. Donc, vous devriez peut-être revoir la question de cette interdiction de manifester dont vous parlez.
La loi a été censurée par le Conseil constitutionnel en effet sur cette disposition. Il reste quand même la possibilité à la police, un, d'opérer des fouilles dans les conditions que j'ai dites, je n'y reviens pas, et deux, cette loi permet au juge de punir d'interdiction de manifestation pendant une durée maximale de 3 ans toute personne qui aura, etc., etc. Mais là aussi, on va se fonder sur quoi pour dire qu'une personne s'est mal comportée dans une manifestation? Sur le témoignage de la police. Et on sait qu'en la matière, le maintien de l'ordre, c'est extrêmement difficile à identifier quelqu'un qui fait quoi et qui fait qui. Donc moi, je crois qu'il faut faire très attention à ça. Et ce qui paraît de l'ordre de l'évidence aujourd'hui, il faut faire attention en matière, encore une fois, de liberté publique, à la traduction que ça peut donner en matière de liberté publique.
Vous disiez justement dans un entretien dans Le Monde paru cette semaine que les libertés fondamentales sont en très mauvais état en France. Est-ce que vous voulez bien développer ce point, Jean-Marie
Delarue ?
Oui, bien
sûr, c'est une idée qui peut paraître paradoxale, puisque les fondements essentiels de notre démocratie sont encore là. Ce que je veux dire par là, moi je suis inquiet des dérives de certains États en Europe, qui touchent à des libertés dont je n'aurais pas pensé de toute mon existence jusqu'à présent, qu'elles seraient menacées, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de manifestation. Et je constate que aujourd'hui en France, parce que nous sommes menacés par un certain nombre de choses, le terrorisme, les black blocs, on prend des libertés, en effet, avec les libertés. Je crois qu'il faut faire très attention à ça. Et il faut faire attention d'autant plus que ça prend souvent l'allure de mesures extrêmement techniques, soit policières, soit pénales, soit de procédures pénales, qui, je crois, font que nos libertés, en effet, sont progressivement reniées. Quand on met en garde à vue des journalistes parce que soit ils sont réputés avoir diffusé des informations confidentielles, soit parce qu'ils sont réputés avoir fait un bras d'honneur à la police pendant une manifestation, je trouve que ce sont des signes un peu préoccupants. Il y a d'autres moyens pour la démocratie de se défendre sans avoir à aller jusqu'à ces mesures préoccupantes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu pendant toute la période, les 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, un élargissement de nos libertés fondamentales. On est aujourd'hui plutôt dans le sens du rétrécissement. Et je préfère, moi, défendre les choses suffisamment en amont pour éviter qu'elles se dégradent. Et puis, ce qui m'inquiète aussi, c'est que au fond, les libertés ne passionnent plus grand monde.
Oui, on ne les défend plus assez, vous
non,
dites, nos libertés.
Je pense que il y a eu des grandes voix dans les années 50, 60, 70 précisément, pour aller dans le sens de l'élargissement des libertés. Il me semble que ces voix aujourd'hui se sont tues et qu'on a du mal à s'exprimer devant cet impératif qui est partagé par tous les gouvernements qu'on appelle l'impératif de sécurité.
Avec juste titre ou pour des mauvaises raisons, Jean-Marc?
Non, il faut naturellement, chacun a droit à la vie, si je puis dire, et donc la sécurité est un besoin essentiel de chacun d'entre nous. Mais simplement, il faut pas mentir sur la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose qui se dérobe toujours. On a toujours besoin de plus de sécurité. On n'a jamais atteint la pleine sécurité. Bon, et donc... Les gouvernements, sans doute pour se rendre un peu plus populaires, n'arrêtent pas d'ajouter des mesures supplémentaires.
Voire des lois, dites-vous.
Des lois, mais on a empilé les lois depuis 30 ans de façon considérable dans ce domaine. Et par conséquent, moi j'ai un postulat très simple, c'est que comme Mireille Delmas-Marty, pénaliste bien connue, universitaire, le rappelle bien souvent, la démocratie, elle a les moyens de se défendre. C'est pas la peine de lui en donner sans cesse de nouveau. Et donc je crois que la peine perpétuelle, elle existe depuis longtemps, depuis la suppression de la peine de mort. Donc ne craignons pas que les méchants soient poursuivis et chassés et punis. Pourquoi donc rajouter sans cesse des mesures supplémentaires, si ce n'est pour donner à l'opinion le sentiment que le gouvernement est là pour les défendre? Mais il n'a pas besoin de le démontrer. Donc je crois que ces mesures sans cesse renouvelées, qui ne nous rapprochent pas d'un horizon qui se dérobe en permanence, sont en effet une menace progressive pour nos libertés. Et encore une fois, on en a de multiples exemples. Si vous me permettez d'en prendre un seul. Dans la loi sur le renseignement qui a été votée il y a 4 ans, que j'ai quelques raisons de connaître particulièrement bien, on a dit on peut écouter naturellement tous les gens qui, etc., sont suspectés d'eux, et on peut écouter aussi leur entourage. J'avais fait l'expérience d'interroger des responsables policiers sur qu'est-ce qu'ils entendaient par entourage. Et j'ai eu des réponses extrêmement différentes suivant mes interlocuteurs. Pourquoi ? Parce que entourage, ça peut être pour quelqu'un la famille, les proches, le noyau familial, et puis pour quelqu'un d'autre, ça va être le coiffeur chez lequel vous allez toutes les semaines pour vous faire coiffer. Et donc, à travers ces mesures, mine de rien, on sent bien qu'il y a une espèce de pression de l'autorité de police et des pouvoirs publics, mais surtout de l'autorité de police, sur des gens dont la limite en réalité est imprécise. Donc je crois que par là, il y a quelque chose qui en effet menace nos libertés. Je crois que plus personne ne fait attention à travers ces mesures très techniques que beaucoup de gens ne peuvent pas déchiffrer. Parce que ce sont des lois un peu obscures qui sont prises. Il y a des menaces là sur nos libertés, en effet.
Pourquoi les sociétés se sont-elles, ou les voix qui étaient les grandes défenseurs des libertés, se sont-elles tues, selon vous? Pourquoi les opinions ont-elles suivi, ou les sociétés civiles ont-elles suivi, au fur et à mesure, au fil des années, les voix des gouvernements défendant plutôt la sécurité que la liberté?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Je pense que la chaîne sur laquelle je m'exprime ici est à même mieux que moi de dire pourquoi les grands intellectuels ne me pèsent plus autant dans la vie politique française qu'autrefois. Est-ce qu'il y a même encore quelque chose qu'on peut baptiser grand intellectuel aujourd'hui? Ça, c'est des choses que je ne maîtrise pas bien, mais on peut avoir chacun son idée là-dessus. Je crois surtout que, au fond, il y a cette conscience que tant que moi je suis hors d'atteinte des mesures qui sont répressives, il y a l'idée que j'ai pas à m'en inquiéter. Les mesures répressives, c'est toujours pour les autres. Moi, je me comporte bien, donc en quoi est-ce que je serais gêné par des mesures qui vont frapper les terroristes, les méchants? Bon.
Qu'est-ce qu'on répond à ça? Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on entend beaucoup.
Oui, oui, bien sûr. Moi, je réponds que en réalité, ces mesures-là, elles peuvent nous toucher aussi. C'est pas parce que ça vise une population déterminée que il y a aujourd'hui dans ce pays 400 à peu près 1000 gardes à vue par an. Bon, c'est pas des gens tout ça qui sont des gens dangereux terroristes. Il y en avait 250 000 il y a 20 ans. Bon, on a aujourd'hui 70 000 détenus dans les prisons françaises. Il y en avait 50 000 il y a 20 ans. Bon, donc est-ce que tout ça n'est pas l'indice que notre société se durcit et que par conséquent il faut faire attention à ce que ces mesures-là, qui sont des mesures draconiennes, ne finissent pas par toucher tel ou tel d'entre nous?
Donc en fait c'est presque l'inverse, c'est qu'il y a une demande de protection de la part des sociétés à laquelle répondent les gouvernements. C'est exactement ce que dit par exemple aujourd'hui le gouvernement quand Christophe Castaner, dans un tweet à propos de la loi anticasseurs, dit que c'est un texte qui protège les Français face à l'insécurité, face à la violence, qui protège nos institutions et nos libertés. C'est dans l'autre sens, en fait. C'est presque la société qui le demande.
Moi, je ne sais pas si la société demande de la sécurité. En tout cas, ce que je sais, ce qu'elle demande en matière de sécurité, c'est de la sécurité contre l'appauvrissement. C'est ce que nous disent aujourd'hui les manifestations, je pense. C'est la sécurité contre la mise en danger de la planète. Bon. Et je ne mésestime pas le terrorisme, moi j'ai des raisons personnelles d'être touché par ça, mais je pense que il faut hiérarchiser ce qui nous met en péril aujourd'hui, à la fois collectivement et individuellement. Et je ne suis pas sûr que renforcer la politique pénale soit un bon moyen de lutter contre les principaux dangers qui nous menacent. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'état de la planète en 2050. Bon. Je ne mésestime pas les morts et les blessés, hein, mais je veux dire par là que si on prenait autant de mesures en ce domaine qu'on en prend en matière de terrorisme, on irait sans doute mieux. Donc je crois que d'une part, la sécurité est un besoin normal de chacun, mais elle arrange bien aussi le gouvernement parce que ça leur donne une espèce de popularité qu'ils croient en tout cas avoir grâce à ces mesures. Mais deuxièmement, je voudrais être sûr que ces mesures ne rognent pas nos libertés. Je n'en suis pas sûr du tout. Je suis même sûr du contraire. Et deuxièmement, qu'elles hiérarchisent ce qui nous menace aujourd'hui.
Soyons vigilants. Donc, Jean-Marie Delarue est président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et c'est l'invité des matins du samedi. Jean-Marie Delarue, finalement, on a cherché avec Natacha quelques points d'optimisme et c'est un peu difficile d'en trouver. Peut-être le seul endroit où on peut en trouver est-il encore dans votre dernier rapport, finalement, le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, rendu le 23 avril, sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie en France, qui peut surprendre, hein, à vrai dire, puisque vous dites, et c'est vrai depuis 2013, donc c'est pas la première année que vous constatez les mêmes choses, malgré une hausse indéniable des actes violents, on assiste, dit ce rapport, à une lente décroissance des opinions racistes. Autrement dit, à une augmentation de la tolérance.
Oui, vous savez que nous publions un rapport depuis très longtemps, ça fait bientôt
depuis
une trentaine d'années.
Hein, oui.
Exactement. Et donc nous avons des perspectives rétrospectives, si je puis dire, de long terme, enfin des rétrospectives de long terme. Alors je crois en effet que l'indice de tolérance, qui est au fond une espèce d'analyse de réponse à plusieurs dizaines de questions pour montrer au fond l'opinion que les gens ont d'autrui. Hein, eh bien, cet indice de tolérance n'a jamais été aussi élevé, premier point. Il atteint des sommets qu'il avait déjà frôlés en 2009, mais on va encore un tout petit peu au-delà. Et surtout, il est en hausse continue depuis plusieurs années, depuis 2013, vous venez de le dire, alors même qu'on sait que se sont produits en 2015 des événements tragiques dans notre pays, qui auraient pu conduire à une remontée de l'intolérance. Donc, il y a là un indice. Alors, corrigeons de deux manières. Cet indice de tolérance est inégalement distribué, c'est-à-dire qu'on voit que, s'agissant des personnes qui ne nous ressemblent pas entre guillemets, je souligne, il y a des indices de tolérance plus ou moins marqués. Les juifs, les noirs sont en haut de l'échelle, je veux dire, ce sont les mieux tolérés. En bas de l'échelle, et c'est une préoccupation pour moi, comme pour nous, Commission des droits de l'homme, il y a les Roms. L'indice de tolérance est à peine un tiers des Français, un peu plus d'un tiers des Français. C'est très préoccupant, naturellement. Bon, et le deuxième correctif, c'est que vous l'avez rappelé aussi, il y a une multiplication des actes violents, comme si une minorité irréductible, se sachant de plus en plus minoritaire, recourait à des actes de plus en plus violents pour manifester son hostilité à autrui. Je ne peux pas m'empêcher de penser, en regardant ces données, et notamment par exemple, on va lui rendre cet hommage, les données que Christophe Castaner recensait il y a quelques semaines sur les agressions à l'égard des juifs, n'est-ce pas ? Je ne peux pas m'empêcher de penser, en évoquant cela, au suprémacisme blanc des États-Unis qui viennent de tuer à plusieurs reprises dans des synagogues ou des mosquées. Et là, je ne voudrais pas qu'il y ait des dérives semblables dans notre pays. Donc, majorité française très acquise aux idées de tolérance, c'est très important, c'est très positif, mais attention aux actes d'une minorité irréductible.
C'est comme ça que vous préférez voir les choses, plutôt donc le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire aussi que même si ce rapport décrit des améliorations, il met quand même en garde contre la hausse, oui, d'un certain nombre d'actes intolérants. Oui. Vous parlez d'une minorité intolérante. Cette minorité, elle est peut-être intolérante, elle est peut-être minoritaire, mais elle est très visible, oui, malgré tout, Jean-Marie Delarue. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une grande différence entre notre sentiment, notre perception et la réalité ?
Oui, enfin, je crois que les minorités s'efforcent de se rendre visibles et de convaincre les autres qu'elles sont la majorité, n'est-ce pas ? Ça, c'est le lot de toutes les minorités. Donc, je crois que ces minorités-là, en effet, tiennent beaucoup de place. Elles tiennent. Et puis, ce qui est très frappant dans les sentiments de cette minorité, pardon, c'est qu'au-delà de l'antiracisme ou du racisme que cette minorité endosse, il y a au fond une convergence d'opinions sur des thèmes très traditionnels, c'est-à-dire ceux qui se disent racistes sont ceux aussi qui disent vouloir que la femme reste au foyer, se disent aussi ceux qui veulent qu'il n'y ait pas de mariage entre personnes du même sexe, etc. Tout ça converge et donc renforce les personnes dans leurs opinions pour penser que le monde se détruit, que tout va mal, etc. Et donc cette minorité-là, eh bien, elle agit, l'Internet lui donne beaucoup de capacités, naturellement, et donc elle tient sa place. Bon, mais ce qui me rassure aussi, c'est que cette tolérance dont nous avons parlé au début de ce sujet est plus marquée dans les jeunes générations que dans les anciennes. Autrement dit, elle est encore plus forte dans les moins de 30 ans. Et ça, c'est quelque chose qui donne à espérer. Nous voulions un signe d'optimisme dans cette émission. Là, je crois qu'il est là.
Quelle est la fonction d'un rapport comme celui-ci? Donc, vous le rappeliez que la Commission nationale consultative des droits de l'homme rend depuis 1990.
Son rôle, c'est de vérifier que chacun a ici, dans ce territoire français, sa dignité d'homme. Voilà, ça c'est le fond de notre action. Et donc, le rapport consiste à mesurer, tout simplement, avec l'aide de gens très très compétents en matière de sondage, d'enquête, etc., etc. Et donc, quel est l'état de l'opinion sur le racisme en France? Voilà l'objet de ce rapport. J'espère pouvoir en développer un autre de la même ampleur, avec la même enquête auprès d'un échantillon très représentatif de la population, qui portera par exemple sur l'homophobie, puisque nous sommes à la commission aussi rapporteurs de ce sujet-là. Et donc on pourra ainsi approfondir quel est le degré d'acceptation dans notre démocratie de la personne qui est autre que moi. Voilà. Et ça fait partie des droits de l'homme, naturellement.
Comment, Jean-Marie Delarue, envisagez-vous votre fonction à vous, cette fois, votre rôle à la tête de la CNCDH, en particulier par rapport au rôle de Jacques Toubon, le défenseur des droits?
Oui, moi, on n'est jamais trop pour défendre les droits de l'homme, donc je ne me plains pas de Jacques Toubon, que je respecte énormément et que je verrai d'ailleurs très prochainement, puisqu'il faut que nous nous coordonnions, naturellement. La force de la Commission des droits de l'homme, c'est qu'elle associe, et je veux leur rendre hommage ici, parmi ses membres, énormément d'associations qui se sont engagées, soit de façon généraliste dans la lutte contre le racisme, soit pour les droits des femmes, soit pour les droits des enfants, soit contre la pauvreté, etc. Toutes ces associations-là sont présentes dans la commission, actives, et ce sont elles qui donnent, au fond, ce qui va faire notre opinion, ce qui va nous amener à rendre des avis. Nous sommes consultatifs et nous avons à éclairer les pouvoirs publics forts de ces associations qui nous donnent beaucoup d'idées, de force, de militantisme, d'engagement divers pour éclairer le gouvernement.
Il y a un dernier sujet que je souhaiterais aborder avec vous, Jean-Marie Delarue, avant le dernier quart d'heure de ces matins du samedi. Et ce sujet, c'est un sujet d'actualité également, puisque c'est la réforme de la fonction publique.
Oui.
La réforme de la fonction publique arrive à l'Assemblée nationale. Cette semaine, il a été présenté devant les parlementaires ce jeudi. Vous êtes vous-même haut fonctionnaire, vous êtes conseiller d'État, vous avez fait l'ENA. Il se trouve que le président de la République souhaite en finir avec l'École nationale d'administration dans sa forme actuelle. Est-ce que vous avez un avis sur la question? À quoi vous a servi l'ENA, vous, dans votre vie?
Moi, j'ai fait l'ENA sur le tard, puisque je l'ai fait au titre du concours interne, c'est-à-dire des fonctionnaires qui avaient déjà exercé des fonctions et qui pouvaient se présenter à ce concours. Je rappelle que l'ENA, au contraire d'autres grandes écoles, a trois concours. Un concours d'étudiants, que tout le monde connaît, un concours interne, donc je viens de le dire, qui recrute des fonctionnaires qui ont déjà exercé des fonctions. Moi, je suis content d'avoir commencé ma vie comme petit fonctionnaire. Bon. Et puis trois, un concours dit troisième voie, qui recrute des gens issus du milieu associatif, etc. Bon, toutes les grandes écoles ne peuvent pas en dire autant. Et donc, si toutes les grandes écoles avaient ces concours-là, peut-être que ce serait bon. Mais peu importe l'ENA. Moi, si j'avais à en prendre un système élitiste, je commencerais par pourfendre les écoles de commerce. Les grandes écoles de commerce dans lesquelles les tarifs de scolarité avoisinent des sommes que je ne vais pas dire ici, mais qui sont par l'ampleur même de ces sommes, absolument dissuasives pour les gens qui ne disposent pas de grosses fortunes. Donc moi, c'est ça que j'aurais commencé par dire. Bon, mais quel que soit ce qu'on pense de l'ENA, moi, je suis pas attaché viscéralement aux institutions. C'est normal qu'elles évoluent ou qu'elles changent, et qu'on supprime l'étiquette ENA ne me gêne pas. En revanche, moi, je tiens à ce que nous ayons dans ce pays une fonction publique compétente. Je dis pas une haute fonction publique, je répugne, enfin j'aime pas du tout ce qualificatif, mais une fonction publique qui soit compétente, qui soit désintéressée, qui soit dévouée à l'intérêt général.
Et moi, On l'a perdu ?
Pardon ?
On l'a perdu ?
Moi, la plupart des fonctionnaires que je rencontre aujourd'hui ont encore ça chevillé au corps. Alors maintenant, si on n'arrête pas de les critiquer, ils vont se demander si ils ont raison de se comporter comme ça. Mais je crois vraiment que on doit... Alors, on va dire que mon jugement est biaisé, sans doute aura-t-on raison, mais je crois qu'il faut rendre hommage aux fonctionnaires qui, de façon anonyme, faut pas se dissimuler derrière la poignée d'entre eux qui font de la politique, n'est-ce pas, de façon anonyme, se lèvent très tôt, se couchent très tard pour arriver à faire que les Français soient un peu plus heureux tous les jours.
Allez Jean-Marie Delarue, restez donc avec nous à 8h46 sur France Culture. Nous entrons donc dans le dernier quart d'heure des matins du samedi et je vous invite bien naturellement à y rester et à l'écouter et à y participer.